Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer la conférence de ce soir. Alors, en guise d'introduction, je me permets de dire que je suis ravie d'être ce soir avec vous ici. Et je tiens à remercier l'École des hautes études en sciences sociales et le LabEx TEPSIS qui sont à l'origine de l'organisation de la conférence. Alors, la conférence intervient, vous le savez, dans un moment assez particulier qui est marqué notamment par les attentats à Paris, à Saint-Denis et ailleurs dans le monde. Il nous a semblé important de maintenir la programmation, mais permettez-moi aussi de dire, en guise de l'introduction, un mot de solidarité avec les victimes, avec les familles qui ont perdu un proche, et de manière plus générale pour l'université, avec l'université qui a été durement touchée. Le thème qui nous réunit ce soir est celui des migrants, des migrations roms en France et en Europe, et surtout les questions de citoyenneté, d'accès aux droits, d'égalité, d'enracinement et de mobilité dans une Europe qui est de plus en plus confrontée à ses frontières. Je vais commencer en présentant sans plus attendre nos invités qui interviennent dans la table ronde et que nous aurons le plaisir aussi d'écouter dans le débat ce soir. Alors, tout d'abord, donc à ma gauche, Alice-Sophie Sartinelli, docteur de l'OHESS, auteur notamment d'une thèse intitulée « Protéger, éduquer, exclure, anthropologie de l'enfance et de la parentalité rome en Italie », thèse qui vient d'être récompensée par le prix d'excellence de la chancellerie, et donc on félicite Alice-Sophie très chaleureusement. Alice-Sophie est actuellement chargée de recherche à l'Université de Liège. Et donc, merci à nouveau d'être avec nous ce soir pour cette conférence. Donc ensuite, Lorenzo Alunni. Lorenzo est également auteur d'une thèse en anthropologie préparée à l'Université de Nanterre et à l'Université de Pérouse en Italie. Il s'intéresse plus particulièrement aux enjeux de santé dans une perspective d'anthropologie politique. Et à la manière dont ces questions de santé, de soins peuvent servir d'indicateurs pour étudier des processus plus vastes à l'œuvre dans la société. Lorenzo a bénéficié d'une bourse Fernand Braudel en 2014 à l'EHESS et il a été résident en 2015 de la Fondation Brochet en Suisse. Nous avons également le plaisir d'accueillir Laurent Egosi, qu'on ne présente pas ou l'on ne présente plus. Donc, chirurgien des hôpitaux de Paris, élu de Nanterre depuis 1989, fondateur de la SAVE, Association pour l'accueil des gens du voyage, en 1990, cofondateur du collectif national droits de l'homme Rome Europe et président de la FNASA depuis 2009. Rome Europe, qui a récemment publié deux rapports importants, un rapport politique en 2015 intitulé « Le bannissement », et un rapport d'observatoire en 2014 intitulé « Le droit et les faits ». Deux rapports dont vous pourrez voir des éléments sur la table de documentation et même quelques exemplaires, et que vous pouvez bien sûr vous procurer en intégralité sur le site de Rome Europe. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir également Jonathan Larcher, qui termine une thèse en anthropologie visuelle à l'École des hautes études, à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, l'IAC, et qui nous parlera en particulier de la construction de l'image et des représentations de la tiganité en Roumanie, sur le long terme, puis de la manière dont elles ont été influencées ou non dans la période plus récente par la question des migrations et de l'intégration européenne. Avant de leur passer la parole, permettez-moi en guise d'introduction de tâcher en quelques mots de replacer l'importance des sujets qui nous réunissent dans l'actualité. Une actualité qui n'est pas l'actualité immédiate de la semaine dernière, qui est une actualité un petit peu plus éloignée, si on peut dire, et qui est celle qui fut dominée par la question des migrations, la crise dite des réfugiés, par une image de l'Europe dite forteresse, de plus en plus confrontée à ses frontières. Alors, des frontières externes, bien entendu, dont il est question avec les demandeurs d'asile, les réfugiés, les migrants dits économiques ou non qui fuient leur pays d'origine et arrivent par centaines de milliers depuis le début de l'année, et même avant, mais aussi des frontières internes, comme dans le cas qui nous préoccupe ici, des migrations dites roms, des migrants dits roms, en théorie et en droit citoyens de l'Union. La question rom, selon l'appellation consacrée, n'est pas le seul révélateur de ces frontières internes et souvent illégitime de la démocratie, de la nation et au-delà de l'Union européenne. La question de la religion, de l'islam en particulier, offre d'autres exemples de ces logiques de crispation identitaire, d'une représentation de plus en plus généralisée de l'altérité sous les figures du danger et de la menace. Mais selon l'hypothèse que j'aimerais vous proposer ici à discuter, c'est que cette question rom, entre guillemets, peut être un des indicateurs, ou en tout cas un analyseur, de cette question des frontières internes, un des indicateurs les plus pertinents. On peut faire l'hypothèse également que le renforcement des cadrages sécuritaires, qu'on a d'ores et déjà constaté, à la suite des événements les plus récents, ne manquera pas sans doute de rendre ces enjeux et ces problématiques encore plus saillants et encore plus aiguisés, à renforcer justement ces processus de mise en frontière et de violence de ces frontières et violence aux frontières. Dans le cas des Roms, une autre hypothèse, avant de passer la parole à nos invités ou aux intervenants, dans le cas des Roms, comme le montrent en tout cas les résultats de plusieurs recherches récentes, ces processus de mise en frontière et d'altérisation prennent la forme d'une racialisation. Racialisation entendue ici comme un processus de naturalisation et d'essentialisation de différences socialement et culturellement produites, jusqu'à en faire un déterminant essentiel des comportements et des conduites sociales. Quels sont les moyens de cette altérisation? Quels sont les moyens de cette racialisation? Je donnerai ici quelques exemples, quelques pistes à compléter sans doute, à enrichir et à approfondir dans le débat. C'est tout d'abord le marquage qui opère de manière explicite et bien souvent implicite dans les pratiques et les représentations pour éloigner ces migrantes d'une norme, entre guillemets, perçue comme moyenne, générique, neutre, que ce soit en matière de genre, de parentalité, de violence, de criminalité. Ils sont sans cesse rapprochés d'identités exubérantes, déviantes, hein, qui enracinent ces distinctions socialement construites dans la nature. Ce sont ensuite les logiques de tri et de sélection mises en place sur la scène locale pour séparer, entre guillemets, le bon gré de l'ivraie, comme dans les opérations dites d'insertion qui, de facto, conduisent à la reproduction d'un grand nombre d'indésirables et à la réitération de logiques d'exclusion. Dans ces opérations, il est intéressant d'observer comment le préjugé peut agir de manière camouflée, implicite, comment les politiques pensées en faveur des Roms peuvent recouper des situations de racisme et de discrimination, y compris directes, sous prétexte de les prendre en charge. Voici donc quelques pistes et hypothèses d'investigation sur lesquelles je pense que nous aurons sans doute des éléments et d'éclairage complémentaires à travers justement les différentes interventions que nous avons sollicité dans le cadre de cette conférence ce soir. Et donc je passe sans plus attendre la parole à Alice-Sophie qui nous parlera des politiques italiennes, de la situation italienne, mais pas seulement, hein, puisqu'elle connaît également bien la manière dont ces problématiques sont posées en France. Hein.
Merci beaucoup. Pour cette opportunité de présenter vraiment quelques éléments et de pouvoir échanger avec une salle qui reste plutôt pleine malgré tout. On ne s'attendait pas. Et donc, merci à vous avant tout d'être ici à discuter avec nous. Et donc, dans les quelques minutes, parce que je ne chercherai pas à être trop bavard ce soir, je me permets juste de pointer quelques éléments qui me semblent importants pour la réflexion. Donc, je voudrais essayer de lancer quelques pistes à partir des situations particulières comme celle de l'Italie pour revenir sur des dynamiques qui sont des dynamiques plus globales et pour à partir d'un cas particulier, celui de Rome, pour penser à des dynamiques qui sont loin d'être uniques aux populations auxquelles on s'intéresse ce soir. Donc, je pense qu'un premier élément qui doit être pris en compte est celui du processus de la catégorisation et comment des processus de catégorisation structurent des interactions entre certains groupes particuliers d'une société et différents acteurs de la société, acteurs étatiques, mais aussi d'autres groupes sociaux. Je m'intéresse donc à comment, en Italie, ce processus de catégorisation qui a intéressé les populations roms, sinti et camminanti, a été nourri par les médias, mais aussi par des représentants institutionnels et aussi des riverains qui utilisent et continuent à utiliser aujourd'hui les catégories des nomades, des Zingaros et des Roms pour désigner des individus qui habitent dans des lieux qui sont étiquetés comme des camps Roms, alors qu'ils sont des lieux fort divers, donc des aires de stationnement municipaux, mais aussi des quartiers qui sont habités par beaucoup de personnes étiquetées comme Roms et aussi des bidonvilles, indépendamment de leur appartenance réelle ou supposée à une ethnie, entre guillemets, rome. Et donc, ce sont ces processus de catégorisation qui ont contribué à construire une question rome ou, dans le passé, un problème tzigane en Italie. Problème donc construit de façon particulière, mais aussi en lien avec une question construite sur le plan européen et qui a amené à un processus de politisation extraordinaire qui a culminé avec la déclaration d'un état d'urgence, mot qui est difficile à prononcer dans ce contexte aujourd'hui, mais c'est l'état d'urgence nomade auquel je fais référence, qui a été déclaré en 2008 en Italie. Autre point important qui me semble qu'il faut toujours garder en tête dans ces moments de politisation extraordinaire, il faut pas oublier qu'ils sont toujours les résultats de processus sur le long terme. Et donc ces catégories des nomades, des Zingaros et des Roms qui fonctionnent aujourd'hui en Italie, mais pas seulement, sont les produits des dynamiques qui se sont vraiment construites au fil de l'histoire. Et donc, quand on pense à une question contemporaine, il faut toujours pouvoir retracer, notamment donc pour l'Italie, la catégorie des nomades qui est une catégorie de l'action publique en vigueur encore aujourd'hui, une notion floue qui inclut tout individu généralement identifié comme tzigane, qu'il soit étranger ou national, et qui est donc cumule toute une série de représentations d'imaginaires et des différentes populations fort diverses entre elles qui sont arrivées en Italie au fil des siècles, en fait, à partir du Moyen-Âge, et qui ont donc construit une relation avec les pouvoirs publics dans des périodes fort diverses, donc à partir de l'unité d'Italie à la fin du XIXe siècle jusqu'à en passant par d'autres moments de politisation extraordinaire comme celui du fascisme. Et ensuite, ce qui m'importe surtout de souligner, c'est que ce sont des catégories qui s'est construites aussi dans des moments où on veut faire des choses en faveur de certaines populations. Et donc, la catégorie des nomades qui est en vigueur aujourd'hui en Italie est une catégorie qui a été notamment construite après, donc dans l'après-guerre, où on fait des pas pour la reconnaissance de ces populations minoritaires, donc une volonté qui s'est traduite dans la création d'une catégorie administrative qui a fini par produire des processus de ségrégation, de marginalisation et des réponses univoques pour un ensemble très hétérogène des populations roms et sintis, italiens et étrangers, sédentaires ou voyageurs, réfugiés ou migrants, ou bien tout simplement italiens comme moi et Lorenzo à côté de moi, mais qui sont soumis à un traitement spécifique différent par des bourreaux dans les mairies des villes qui s'adressent uniquement à eux. Et donc, je passe vers donc une réflexion très rapide sur le moment de politisation extraordinaire qui donc s'est construit autour d'un problème public, la question Rome en Italie, qui est venue qualifier la présence donc de migrants surtout qui sont arrivés plus récemment et qui s'est nourri d'un climat d'hostilité vis-à-vis des migrants et d'étrangers qu'en Italie spécifiquement met l'accent sur le fait que la présence même de certaines catégories de personnes pour leur seule présence suffirait à une dégradation morale et symbolique autant que matérielle et physique de l'environnement et de la société. Et donc c'est à travers cette logique de racialisation, comme l'a rappelé Milena tout à l'heure, que on a pu radicaliser l'antiziganisme avec des expulsions d'envergure, des pogroms et des mobilisations contre ces populations. Et donc des discours qui sont ensuite ont été élevés au rang de cause nationale et des problèmes de sécurité publique de premier ordre à travers donc justement cette déclaration en 2008 de l'état d'urgence relative au campement des communautés nomades dans certaines régions en Italie. Dispositif qui n'a pas été considéré comme discriminatoire par la Commission européenne, mais conforme au droit communautaire, et qui a été aboli quelques années plus tard lorsque le Conseil national a reconnu non pas l'intention discriminatoire de cette déclaration, mais uniquement le fait que il n'y avait pas des conditions d'urgence suffisantes à déclarer un tel état d'urgence. Je voudrais conclure sur l'articulation des deux logiques qui, me semble-t-il, caractérise la question Rome ou tout au moins en Italie, mais je pense que relève des dynamiques plus larges dont on pourrait discuter. Donc l'une sécuritaire, donc la rhétorique de la protection des citoyennes comme contre la menace de la présence Rome, et l'autre humanitaire qui renvoie à des registres argumentatifs comme ceux de la protection de l'enfance en danger. Donc c'est à la fois pour se protéger des Roms, mais aussi pour protéger les enfants Roms, que l'on a déclaré l'état d'urgence. Et donc, je voudrais clôturer sur cette question qui me touche particulièrement parce que c'est à ça que j'ai consacré ma thèse, celui donc de l'utilisation de la figure de l'enfant rome. Suivant des représentations les plus répandues de l'enfance rome, des enfants peu enclins à la scolarisation, aptes au vol, susceptibles de mendier ou de travailler, de se marier et d'avoir des enfants dès leur plus jeune âge. Image que l'on peut repérer clairement dans des documentaires, par exemple, qui sont à faveur du droit, des droits des enfants. Je vais terminé très rapidement, comme notamment le court-métrage Blue Gypsy d'Emir Kostoreza, qui faisait partie du documentaire All the Invisible Children, dans les campagnes d'une sensibilisation pour les droits de l'enfant de l'UNICEF. Et donc, c'est pour protéger ces enfants, qui sont bien sûr pas protégés par leurs parents qui sont incapables d'être parents, qu'il faut promouvoir l'état d'urgence. Et c'est l'une des arguments sur lesquels s'est appuyé le Premier ministre qui était alors au pouvoir. Et donc, il me semble important de rappeler que les politiques sécuritaires s'emparent non pas seulement de la peur, mais aussi de la sollicitude et de la sympathie qui sont suscitées par des conditions de vie déplorables de membres de ces populations qui paraissent comme particulièrement vulnérables, comme les enfants. Et donc, c'est aussi l'argument humanitaire qui sert à justifier, à légitimer les recours à un état d'urgence. Et bien sûr, il me semble que particulièrement important de réfléchir à l'utilisation de ce genre de rhétorique qui est loin d'être spécifique aux Roms et à l'Italie. Et donc, voilà, je voudrais clôturer sur cette réflexion autour de l'articulation entre les logiques sécuritaires et les logiques humanitaires. Et bien sûr, rebondir sur ce que Milena a dit, parce que ces genres de déclarations amènent ensuite à redéfinir des frontières entre des pratiques publiques qui sont légitimes et illégitimes à l'égard d'un groupe qui reste dans une ambiguïté entre catégorie de l'action publique et racialisation. Catégorie que, en l'occurrence, est celle des Roms, mais qui peut être une autre à d'autres moments et à d'autres périodes de l'histoire. Merci.
Merci Sophie, même si on s'est connaître lui-même, je suis un peu fâché avec elle parce qu'elle ne m'a rien dit à propos du prix que sa thèse a gagné. Donc, c'est bien mérité, félicitations. Et surtout merci à Milena et Olabex Tepsis pour avoir organisé cette rencontre. Je viens d'arriver d'Italie, j'étais sûr que ça aurait été annulé, mais non, et merci d'être venu. Mon travail a concerné les services de santé publique spécifiques pour les citoyens roms, en particulier un service appelé en italien camper sanitaire, comme vous pouvez l'imaginer, qui était en fait un cabinet médical mobile, non simplement un cabinet médical ordinaire, où toutes les activités des cabinets médicaux venaient faites, mais mobile dédié au camp rom, de la ville de Rome. J'essaierai de ne pas répéter les éléments généraux sur la situation italienne que Sophie a déjà très bien donné. Par contre, Sophie s'est concentrée sur la situation de Milan et moi sur la situation des Roms. Donc, nos deux recherches étaient d'une certaine façon un peu complémentaires parce qu'en effet, c'était bien sûr une des spécificités de la situation italienne par rapport, je pense, à la situation française, pas seulement, espagnole aussi, c'est que les politiques roms italiennes, même dans un contexte de, bien sûr, politique nationale, sont toujours en réalité des politiques locales. Dans cette perspective, j'ai choisi de me concentrer sur la situation des Roms, de la ville des Roms. Il y a malheureusement en français cette correspondance, donc si ce n'est pas clair, interrompez-moi sans problème. J'ai choisi de me concentrer, je disais, sur la ville des Roms à raison de trois éléments principaux, de trois éléments de spécificité. Les premiers, tout simplement, les chiffres, les numéros des résidents roms présents dans la ville des Roms, parce que la ville des Roms est la ville d'Italie, mais si je ne me trompe pas, d'Europe centrale, où se concentre la partie la plus importante des citoyens roms présents en Italie. Le deuxième élément, c'est le fait que les politiques locales menées par la mairie des Roms étaient considérées à l'époque, et je parle de ma recherche ethnographique a commencé en 2009, les politiques locales étaient considérées un peu comme des politiques modèles, un prototype de ce qu'il fallait faire en Italie, soit par les ministres de l'intérieur de l'époque, Roberto Maroni, de la Ligue du Nord, ben oui, et soit par d'autres agents institutionnels. Le troisième élément qui m'a semblé tout de suite assez évident, c'était le fait que à Rome, la transformation du paradigme humanitaire, qui va être, comme ça a été pour Sophie, qui va être un thème central dans mon intervention, le paradigme de la transformation humanitaire a changé d'une façon plutôt évidente, parce que quand je suis arrivé sur le terrain, quand j'ai commencé ma recherche, c'était vraiment un moment de passage historique pour l'histoire politique de la ville de Rome. Et donc, j'ai pu assister pendant la campagne électorale, le maire, les candidats qui auraient été élus, qui criait en face d'un public il faut que les Roms dégagent. Et il a gagné les élections. Et juste après son installation à la mairie, le discours a tout de suite changé on ne peut pas permettre que les Roms vivent dans ces conditions si précaires. Donc, en tant que chrétien, on a les devoirs moraux de les aider d'un point de vue humanitaire. Je peux ajouter peut-être un quatrième élément de spécificité romaine, c'est-à-dire un simple mélange de proximité, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à Rome s'est passé à côté des ministères et tous les centres où les politiques nationales étaient produites. Donc ma recherche a été d'une certaine façon une photographie ethnographique d'un moment plutôt particulier pour la ville de Rome, soit à un niveau local, spécifiquement local, soit à un niveau national, mais européen. Le niveau local, comme je disais tout à l'heure, c'était les passages historiques après 50 ans de gouvernement local de gauche. Au début de mon terrain, le gouvernement est passé, le maire élu était un maire de droite, voire extrême droite, parce qu'il avait Gianni Alemanno, un passé dans le delle partie néofascistes, explicitement néofascistes, donc c'était un peu compliqué. Et de l'autre côté, au niveau européen, soit national, c'est le fait que la recherche a commencé quand il y a eu les premières entre guillemets vagues de Roms de Roumanie qui venaient parce que les Roumaniens venaient d'entrer dans l'Union européenne, donc ils n'avaient plus besoin d'un visa pour entrer. Au temps de la recherche, il y avait à Rome entre 12 000 et 15 000 résidents roms. Le chiffre n'est pas précis parce qu'en effet, c'était très compliqué de compléter des recensements bien définis, simplement parce que le résident rome refusait très souvent de déclarer leur appartenance, de reconnaître la possibilité qu'on leur venait demander une appartenance de type ethnique. Je ne vais pas répéter les questions de l'état d'urgence et tout ça parce qu'Alice a déjà bien dit. Sauf qu'à Rome, le nouveau maire avait promulguer un plan nomade spécifique pour la ville de Rome, un plan nomade, piano nomadi, qui consistait en particulier sur le démantèlement d'un très grand nombre de camps de Rome, des camps qui existaient depuis plus de 40 ans, donc ce n'était pas depuis d'une ville qui venait de naître. Et surtout un plan nomade qui s'est basé sur l'effet l'annonce du limite des personnes roms que la ville de Rome était en mesure d'accueillir. Le limite était 6 000, les limites déclarées par la mairie étaient 6 000, alors que pour les autres personnes, et on sait que c'était plus que le double, il n'y avait aucun plan, on ne disait pas qu'est-ce qu'ils auront fait des autres personnes, et surtout ils ont déclaré ces principes sur la base, ce principe d'accueil, limite d'accueil plutôt sur la base d'un classement ethnique explicite. C'était une phase de durcissement très fort de politique locale par égard aux Roms, mais c'était un durcissement soutenu par le durcissement de politique à niveau national. Voici donc le contexte où ma recherche ethnographique s'est développée. Et le service médical que j'ai suivi pendant 3 années, c'était un service soutenu par les services de santé publique. Ça, c'était mon intérêt. Pourquoi j'ai choisi l'angle médical? C'était simplement parce que pour moi, observer la dimension ordinaire et quotidienne des interactions entre le personnel médical et les résidents roms des camps, c'était vraiment une façon pour voir comment l'État entre et agit dans des espaces d'exception. Parce que, on le sait, la santé publique, c'est une des façons les plus tentaculaires, si ces mots existent en français, de l'État pour entrer dans la vie des citoyens, surtout s'il s'agit de citoyens qui vivent dans les marges. Comme on le sait, les marges, analyser les marges, ça aide beaucoup à analyser ce qui n'est pas considéré marge. Donc c'était très intéressant. Pour m'expliquer un peu comment ça s'est passé, mon terrain, et c'est compris, c'est les suggestions qu'on peut saisir de mon terrain, je vais vous raconter 2 anecdotes très vite. C'est juste pour illustrer un peu les enjeux qui se jouaient dans le camp quand j'étais là-bas. Le premier anecdote concerne une jeune femme qui un jour, une jeune femme qu'on connaissait, qui était une patiente habituelle du service, un jour elle arrive dans les campers et elle demande, très, très inquiète, une quantité importante de médicaments. Et on était tous étonnés. Le médecin demande « Mais pourquoi tous ces médicaments ?» C'était plusieurs boîtes d'un même médicament, en fait, comme si elle devait partir. Elle dit « Parce que notre camp va être bientôt démantelé. » On a dit « Comment tu le sais ? » On n'avait pas la nouvelle. « Ah non, j'en suis sûr, parce qu'hier, il y avait les gens de la Croix-Rouge qui marchaient dans le camp avec des listes de documents à la main, avec des listes de noms. Donc, quand il a la Croix-Rouge, c'est sûr que quelque chose va passer. » Donc, il y a 2 éléments intéressants dans cette anecdote. Le premier est le fait que c'était si explicite les liens qu'on faisait entre une organisation censée apporter de l'aide médicale, humanitaire, et même si j'avais déjà vu que le recensement fait par la mairie passait par la Croix-Rouge, qui en gros donnait des médicaments en échange de données personnelles des citoyens. Donc pour moi, vous voyez que le deuxième élément d'intérêt, c'est que la fille avait raison, parce que le lendemain, le démantèlement est arrivé, j'étais là-bas, et voilà. Donc au début, on avait même ri, parce qu'il y avait pas mal de rumeurs qui s'est passé de ce type. On a dit, mais non, mais c'est toujours comme on dit, toujours comme ça. Non, non, mais hier, j'ai vu les gens de la Croix-Rouge. Bon. Le deuxième anecdote, il concerne un responsable du service, un responsable externe, bureaucratique, qui ne venait jamais, mais un jour, il vient et pour parler du renouvellement du financement pour le service pour l'année suivante. Et tout d'un coup, il dit... Donc il parle d'abord, il négocie avec le docteur et l'infirmière, le médecin et l'infirmière, comment écrire par rapport aux besoins humanitaires que le Rome en question avait, et juste vraiment pour ce qu'écrire dans son rapport. Et à un moment donné, il dit, je cite, je lis parce que c'est important, au fond, vous le savez, la seule raison pour laquelle on renouvelle tous les années votre service, le financement pour votre service, et que les campers limitent presque complètement le nombre de Roms qui viennent embêter les gens dans les hôpitaux et les cabinets. Rien plus que ça, mais vous le savez, ça. Donc, c'était en face de ça. Normalement, ça prend une recherche entière pour arriver à ça, alors que les responsables arrivaient, mais bon, OK, c'est parfait. Et donc, mais c'est une blague, mais c'est vrai que c'était une formule très très explicite pour dire simplement que c'est un service qui était présenté comme humanitaire, un service de santé publique présenté comme humanitaire, était simplement un instrument très microscopique, très pratique pour créer une frontière interne, les frontières internes que Milena disait tout à l'heure. Et donc voilà les deux années de notes. Et pour clôturer, moi aussi, je pense que j'ai pris trop de temps, ça ne marche pas. Je vais très vite. Et, ah oui. J'ai réfléchi un peu sur le titre du colloque, qui est Migration Rome en Europe. Et, parce qu'en effet, le titre a touché à un élément de réflexion constante pour moi et encore ouvert, en réalité, pendant ma recherche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd en pensant la question Rome avec les outils analytiques qu'on utilise normalement pour la migration, pour les migrés, pour les migrants. C'était une question centrale pour moi, parce que d'un côté, et je me réfère ici au champ médical, il y avait l'idée un peu de traiter la santé des Roms un peu comme on traite simplement les maladies de la pauvreté et les maladies de la migration. Alors que c'était une façon pour augmenter l'effet de dépolitisation qui était un peu en cours de se passer, c'est-à-dire de considérer les maladies d'une façon, au fond, technique, un peu en occultant les éléments politiques que même le personnel de l'unité avait le pouvoir d'observer, de présenter aux responsables, de négocier. De l'autre côté, il y a, par rapport à la question de la migration, l'enjeu de l'usage du mot nomadisme. Mais sur ça, Sophie a déjà traité ce thème, donc je ne vais pas les traiter encore. Je vais juste ajouter que, par exemple, pour moi, comme je me suis focalisé sur un aspect particulier, que c'était le champ médical, c'est évident comme cette idée avait des reflets importants sur, par exemple, les parcours thérapeutiques, le fait que les soins étaient toujours menés d'une façon, sur une base d'urgence, sans suivre des parcours de soins ordinaires, même des personnes qui sont nées dans les camps, ou même des personnes qui habitaient dans les camps depuis 40 ans. 40 ans, vraiment 40 ans, pas plus que ça. Et donc, pour moi, c'est évident de voir comme les unités spécifiques dédiées aux Roms, les unités de soins, les unités de santé, les unités humanitaires qui passaient à travers la santé, c'était encore des éléments de déstabilisation permanente. Dans cette perspective, c'est pour ça que l'ethnographie de la santé, des services de santé publique dans les campements, ça devenait vraiment une ethnographie de l'État. Si on pense par exemple au fait que l'expression rhétorique toujours utilisée par ce type de services, c'est celle d'éducation sanitaire. C'est-à-dire qu'on va dans les camps pour apprendre aux Roms, dans ce cas, à utiliser les services sanitaires. Alors d'abord, c'était exactement le contraire, c'était explicite, comme les responsables l'ont dit, comme je vous disais tout à l'heure. Deuxièmement, j'ai vu simplement que l'expression éducation sanitaire, dans ce cas, dans les marges, c'est simplement un synonyme d'éducation sécuritaire. Donc, je vais conclure en disant qu'il faut peut-être faire un peu plus d'attention à ce que les services spécifiques dédiés aux Roms, mais pas seulement aux Roms, aussi aux autres groupes marginalisés, En réalité, ce sont des instruments, des outils les plus puissants pour la reproduction d'un état d'exception qui va déterminer les situations de marginalité qu'on est en train de décrire. Merci.
Tout de suite la parole à... Ah, voilà, il y a notre micro, c'est parfait. À Laurent Egosi qui va écrire
bon.
La situation française, n'est-ce pas ?
Alors, c'est... Bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Je suis honoré de cette invitation à intervenir ici à l'École des hautes études en sciences sociales et je suis surtout toujours content d'entendre les travaux des chercheurs et d'écouter, de débattre avec vous. Donc merci à l'École des hautes études, merci à Milena de cette initiative toujours, hélas, utile, même si j'ai l'impression de répéter depuis 25 ans à peu près les mêmes choses et donc c'est ce que je vais essayer de vous dire. Il y a d'ailleurs un mouvement, comment ça s'appelle ? Un truc qui vient de se créer qui s'appelle 25 ans de bidonville pour montrer comment depuis 25 ans en France, finalement, les politiques se suivent, se ressemblent et ne résolvent rien. Politique conduite à l'encontre des bidonvilles de Rome avec collectif construit avec Médecins du Monde. Et donc, à cette occasion, on s'est plongé dans les archives. Sur Internet, on retrouve plein de trucs. Et je m'aperçois à quel point, déjà, en 90, on parlait pas de Rome en France, on parlait des Tziganes roumains de Nanterre, parce qu'ils sont tous arrivés et qu'ils sont installés à Nanterre. Donc, je le répète, je suis élu à Nanterre depuis 89. Il y en a eu jusqu'à 900, rien que sur la ville de Nanterre. Sur quatre terrains au bord de la Seine, jusqu'à ce que Charles Pasqua, qui était président du conseil général, devienne ministre de l'Intérieur et décide qu'il fallait les expulser. Et depuis, on expulse, on répète les expulsions. On résorbe les bidonvilles, entre guillemets, et on les disperse partout en France. Donc 25 ans de politique tout aussi inefficace que discriminatoire. Et quand une politique est conduite de manière aussi obstinée par les gouvernements successifs avec la même inefficacité, on doit s'interroger sur les raisons cachées de cette politique. Clairement, elle n'est pas faite pour résorber les bidonvilles. Elle est faite plutôt pour tout à fait autre chose. Elle part évidemment de présupposés en France comme en Italie. Donc, présupposé largement partagé que ces populations ne sont pas intégrables, qu'elles sont trop différentes pour partager notre commune humanité, qu'il faut donc les mettre en dehors, qu'ils n'ont pas vocation à rester en France, propos d'un Premier ministre récent. Et voilà. Et de même, depuis 25 ans, les mêmes propos racistes, les mêmes rejets, la même intolérance, la même instrumentalisation de ces malheureux pour faire monter la peur et l'idéologie sécuritaire. Et c'est à ça que servent les Roms. La question Rome, elle est fabriquée, elle est instrumentalisée pour essayer, par la peur, par le rejet que provoque cette population, de créer une sorte de cohérence contre de tous les autres, des voisins, voilà. Alors, je précise tout de suite, je ne parlerai que des Roms migrants habitant en bidonville, on va prendre cette appellation, et on y met évidemment tous les guillemets qu'il faut. Je ne parlerai pas de la catégorie administrative gens du voyage, construite par la loi de 1969 sur la base d'un mode de vie, habitant en population, de manière permanente en habitation mobile, qui sont une toute autre question, même si elle est tout aussi discriminée, contrôlée. La loi de 69 est une loi de sécurité, de contrôle avec les titres de circulation. C'est une loi parfaitement discriminatoire qui n'est toujours pas abrogée, malgré la condamnation de la France par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais bon. C'est donc une vieille histoire en France, hein. 25 ans de réapparition des bidonvilles, avec très peu d'avancées, encore une fois, à Rome comme ici. Je ne vais pas tout vous raconter parce que ce serait évidemment trop long et puis que je souhaite surtout essayer de répondre à vos questions, mais simplement souligner quelques points forts qui sont soulignés dans le rapport politique de Rome-Europe, on peut dire un mot de Rome-Europe, et dans rapport politique qui est appuyé sur le rapport d'observatoire. Alors, je ne sais pas s'il en reste des rapports d'observatoire, mais en tout cas, tout ça, vous le trouvez sur le site de Rome Europe. Travail qui a donné lieu à une exposition qui est là encore qu'on peut se procurer, qu'on peut se procurer sur Internet, mais qu'on peut aussi se procurer en vrai. Si vous avez envie de faire un débat sur cette question, vous pouvez vous saisir de cette exposition. Donc il y a 9 panneaux. De qui parle-t-on? La question de l'habitat, la question de la santé, bref, l'ensemble des questions avec un certain nombre de remise en question des idées reçues, des préjugés et une réaffirmation des droits. Voilà, elle est disponible. Alors, en France, on ne peut pas, on ne devrait pas pouvoir parler de population rome. Il n'y a pas de minorité ethnique. Nous sommes, en tout cas, nous prétendons être le pays de l'universalisme républicain, fait de citoyens tous égaux en droit. Donc, il n'y a pas la possibilité légale pour qu'on distingue telle ou telle personne en fonction d'une origine ethno-raciale, réelle ou supposée, impossible à définir, impossible à prouver, qui d'autre que les personnes elles-mêmes peuvent dire si elles se reconnaissent comme Rome, comme Bretonne, comme Corse, ou simplement comme citoyen français ou citoyen européen. Et puis surtout, à partir du moment où il ne peut pas y avoir de minorité ethnique et donc pas de population Rome, évidemment, il ne peut pas y avoir de politique spécifique mise en œuvre, j'allais dire, à leur encontre, puisque c'est une politique qui est mise en œuvre à leur encontre. Ça ne peut en aucune façon modifier l'accès aux droits et les politiques. De surcroît, et évidemment, ça a été dit, mais vous le savez tous, les Roms, entre guillemets toujours, ne sont évidemment pas une population homogène, ni même se reconnaissant comme telle, que ce soit parmi les gens du voyage ou ceux qu'on appelle Roms, la diversité, voire l'opposition entre les différents groupes est extrêmement forte. Il n'y a pas de langue commune, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de nationalité commune. C'est donc un groupe hétérogène, fabriqué, on le sait bien, dans les années... début des années 70, pour être une entité forte de 10 à 12 millions de personnes dans l'ensemble des pays européens et peser sur les institutions européennes pour leur reconnaissance et la reconnaissance d'un certain nombre de droits qui jusqu'alors et jusqu'à aujourd'hui encore leur sont parfaitement déniés. En France, la seule manière de les catégoriser, c'est que ce sont des populations qui habitent en bidonville. De fait, ce dont on parle lorsqu'on parle des Roms, c'est les populations migrantes, originaires des pays est européens, essentiellement de la Roumanie, habitant en bidonville, dans des conditions évidemment indignes, mais dans des conditions surtout imposées par les politiques conduites et le refus de les intégrer de la France. Et cela, encore une fois, depuis 25 ans. Ce sont donc, si on veut, les catégories. Savoir de quoi on parle, des migrants pauvres, originaires de pays est-européens, donc citoyens européens aujourd'hui, fuyant leur pays, la Roumanie essentiellement, car ils y sont discriminés depuis toujours, stigmatisés et discriminés depuis toujours, qu'ils n'accèdent à rien, qu'ils sont donc particulièrement pauvres, sans emploi et sans accès aux services, et qu'ils sont venus en France pour chercher simplement une vie meilleure, un toit, un travail, l'école pour leurs enfants, c'est 80% lorsqu'on leur demande pourquoi ils sont là, 80% répondent ça, un toit, un travail et l'école pour les enfants afin qu'ils vivent mieux qu'ils ne pouvaient vivre en Roumanie. Et pourtant en France, où ils croyaient trouver une vie meilleure, ils sont tout aussi stigmatisés, exclus, mis au banc. Et donc le titre qu'on a choisi pour le rapport politique, c'est « Bannissement ». Bannissement, action de déclarer, proclamer indigne de toute considération une personne, la dénoncer au mépris public, mise au banc, c'est-à-dire en dehors des territoires, le bannissement c'est d'abord ça, en dehors de nos territoires, et c'est les expulsions multipliées, j'y reviendrai éventuellement, qui le mettent en évidence, en dehors de notre société et de droits qu'elle ouvre à toute personne, en dehors de l'humanité même, il faut les construire, essentiellement différents pour pouvoir autoriser le refus de tout accès, encore une fois, aux services, aux droits et les contraindre à vivre différemment de nous. Et on les contraint à vivre différemment de nous, on les fabrique donc différents, on les fabrique encore plus étrangers, ce qui justifie, dans un cercle vicieux parfaitement construit, leur mise à l'écart, leur bannissement. On les fait vivre dans des bidonvilles sans eau, sans électricité, sans sanitaire, sans ramassement des ordures ménagères, et on dit, regardez comment ils vivent comme des chiens. On les fait vivre comme des chiens, ils vivent comme des chiens, donc on dit, ce sont des chiens, et regardez, ils ne méritent que d'être traités comme des chiens. Enfin, il y a une construction particulièrement perverse, mais particulièrement efficace, alors que l'eau, l'électricité, l'enlèvement des ordures ménagères sont des obligations légales de toutes les municipalités. On les fait vivre loin de tout et on dit, regardez, ils n'accèdent à rien, on leur interdit de travailler, on dit, regardez, ils sont bons à rien, ils sont juste bons à mendier, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples de cette fabrication, encore une fois, d'une politique que l'on souhaite le plus homogène possible. Voilà. Population, donc, d'apparence homogène, étrange, étranger, et donc potentiellement dangereux. Fabriqués, encore une fois, par les politiques conduites qui en font donc les boucs émissaires idéales et qui justifient à leur encontre, mais pour toute la population, un certain nombre de lois, il y en a eu 615 ans, qui, au motif de la question Rome ou de la question vent du voyage et ou de la question vent du voyage, étaient des lois toujours plus répressives. Bouc émissaire idéal dans une société... on ne va pas s'apesantir là-dessus, mais enfin quand même de plus en plus frileuse, égoïste et glissant doucement, tranquillement, vers un racisme ordinaire, banalisé, non sanctionné, même lorsqu'il émane de la parole de personnalités politiques. Lorsqu'on construit un groupe homogène, évidemment, les personnes n'existent plus, et donc on les met dans un imaginaire... on les rend conformes à notre imaginaire. On fait en sorte que les Roms soient comme on imagine que sont les Roms, c'est-à-dire inintégrables. Et à leur encontre, du coup, on met en œuvre la même politique. On ne se pose pas la question de savoir si les uns veulent ci ou si les autres veulent ça. Non, on a un groupe homogène, donc une politique homogène, contraire évidemment aux exigences du droit national, européen, international, etc. Et la politique conduite qui vise en France uniquement l'éradication des bidonvilles avec des évacuations répétées à l'infini. Juste en 2014, il y a eu plus de 100 terrains évacués. Plus de 13 000 personnes déplacées pour une population de moins de 20 000 personnes. Et il y avait fin 2013, en gros, 400 et quelques, à peine plus de 400 terrains, 400 bidonvilles. Fin 2014, il y en avait plus de 500. Autrement dit, la seule chose qu'on fabrique, c'est encore plus de camps, encore plus de précarité, encore plus de vulnérabilité, d'éloignement des droits et des droits et des services. Et c'est particulièrement dramatique pour les enfants, des enfants qui sont bien souvent nés en France et qui auront passé toute leur vie, toute leur jeunesse dans des bidonvilles déplacés au gré des décisions des élus et des préfets d'un endroit à l'autre, mais sans aucune raison, sans aucune possibilité de scolarisation, aboutissant dans des terrains qui aujourd'hui sont plus nombreux, je l'ai dit, plus petits donc, puisqu'il y a toujours autant de personnes, plus cachés, plus difficiles d'accès pour l'accompagnement par les associations et par les collectifs. Bref, on aggrave la situation en disant qu'on va éradiquer les bidonvilles. Vous le savez, en août 2012, donc il y a 3 ans maintenant, à la suite d'une rencontre que nous avions demandé au Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, une circulaire, une belle circulaire, comme la France sait les faire, signée par pas moins de 7 ministres, a été promulguée le 26 août, énumérant tout ce qu'il fallait faire. Alors elle s'appelait circulaire relative à l'éradication des bidonvilles et à l'intégration des personnes qui y vivent. Donc 2 volets, et l'intégration des personnes énumérait tout ce qu'il fallait faire en termes d'accès aux droits, d'accès aux droits sociaux, d'accès à la santé, de scolarisation, de logement, d'hébergement, logement, etc. Donc tout est dans cette circulaire, et évidemment seul le premier volet, l'éradication des bidonvilles, est mis en place, mais pas du tout la question de l'intégration des personnes, ou en tout cas quasiment pas. Force est de constater 3 ans après que donc seul le volet répressif est appliqué et pas le volet d'intégration promis aux personnes, constituant donc une politique spécifique à eux seuls réservée, pas d'autre exemple que... Il y a eu d'autres bidonvilles en France, il y a eu d'autres bidonvilles à Nanterre. Il n'y a pas d'autre exemple qu'on ait constitué comme ça une politique avec une circulaire, encore une fois, qui satisfait tout le monde, y compris les instances européennes, mais avec, dans la réalité, un refus d'accès au droit à l'école, à domiciliation, à l'aide médicale d'État, un refus du droit de stationner et d'habiter, un refus du droit de travailler et donc d'avoir des ressources légales et régulières. Alors évidemment que dans la loi, enfin, tous ces droits existent. C'est juste le droit commun, le même pour tous les migrants européens, qu'ils soient italiens, belges, roumains ou autres. On a beau le dénoncer, et donc on a fait avec un certain nombre d'associations un document qui lui aussi est téléchargeable, qui s'appelle « Charte pour le respect des droits et de la dignité des occupants des terrains », avec un certain nombre d'articles qui reprennent tous les droits auxquels ils ont droit, auxquels ils ont droit comme tout le monde, avec les références dans les différents articles, conventions européennes, code du logement, code de la santé publique, etc. Bref, toutes les références juridiques qui permettent, encore une fois, aux habitants et aux gens qui les accompagnent de s'en saisir, avec un effet, somme toute, extrêmement relatif. Et puis, même chose, l'exposition sur le droit pour lutter contre les idées reçues et la discrimination qui essaye de faire comprendre aux gens que ces populations, quel que soit le nom qu'on leur donne, ont les mêmes droits et donc que ces droits doivent être respectés. Au contraire, ce qu'on observe, c'est, je l'ai dit, des expulsions sans solution de relogement, alors que c'est censé être un préalable, en tout cas c'est inscrit dans la circulaire. Avec des jugements ou sans jugement, et les jugements privilégient systématiquement, enfin les tribunaux privilégient systématiquement le droit de propriété, même si les terrains appartiennent au pouvoir public, donc on est un peu dans une histoire folle, privilégient le droit de propriété par rapport aux droits sociaux individuels garantis par toute une série de droits, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme, l'article 10 et 11 de la Constitution, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et j'en oublie sûrement. Bref, tout ça, c'est écrit, c'est validé par la France, signé par la France, et néanmoins, pour cette population, ça n'est pas respecté, même si quelques décisions de justice pourrait faire jurisprudence en mettant en balance précisément le droit de propriété et le droit à, par exemple, une vie sociale et familiale digne. Bien souvent, pour s'autoriser à demander l'expulsion, les collectivités locales mettent en avant l'insalubrité des terrains, voire l'insécurité des terrains. Mais évidemment, cette insécurité et surtout cette insalubrité sont fabriquées par leur absence de prise en charge de leurs obligations, légales, je le répète, au enlèvement des ordures ménagères, etc. Donc on voit bien que, là encore, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, il y a une fabrication du bidonville, encore une fois, à des fins plus que suspectes. Je finis. Et même lorsque, de la part de certaines collectivités, très sollicitées par les associations et les collectifs, il y a une volonté d'humanité, d'accueil, de dignité, certaines collectivités, pas très fréquentes, on imagine alors des dispositifs spécifiques, dont l'exemple... Le pire, mais celui qui est mis en avant, y compris, il y a un appel à projet qui vient d'être sur financement européen, qui vient d'être rendu public par le Conseil régional d'Île-de-France, donc plein de bonnes intentions. Ce qui met en avant en termes d'habitat, c'est les villages d'insertion. Ben, les villages d'insertion, c'est une espèce de ghetto clos, sans liberté d'aller et venir, réservé à une catégorie de population sur une base ethno-raciale réelle ou supposée. Il n'y a aucune autre population pour laquelle on oserait proposer un tel machin. Pour les Roms, on l'imagine, on le met en place, on le promulgue et on le finance. Aujourd'hui... un certain nombre donc de dispositifs spécifiques ont été mis en place. Il y a une mission qui a été confiée au délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement à la suite de la circulaire en 2012. Il y a une mission qui a été confiée à Adoma en 2014. Il y a en Île-de-France où se concentre en gros la moitié des populations dites roms vivant en bidonville. Il y a une mission qui s'appelle, une plateforme qui s'appelle Accueil, Insertion, Orientation et iOS, je ne sais pas, Suivi par exemple. qui est un dispositif spécifique pour une population que seul le droit commun, ou pour une population qu'en tout cas le droit commun, s'il était appliqué complètement, pourrait permettre d'intégrer normalement. Vous l'aurez compris, donc je suis pas chercheur, je m'appuie sur la réalité du travail que l'on fait, encore une fois, sur l'ensemble du territoire français, avec les collectifs, avec les associations qui sont réunies au sein de Rome Europe, et nous affirmons qu'une autre politique est possible, qui serait évidemment moins coûteuse, juste un chiffre, en gros, l'évacuation d'un terrain, c'est 300 000 à 400 000 euros, 100 terrains évacués, ça fait 30 ou 40 millions. Évidemment, avec 30 ou 40 millions, on peut mettre en place des dispositifs qui permettent l'accès aux droits et donc l'intégration progressive de ces personnes. Moins coûteuse financièrement, moins coûteuse humainement, évidemment plus efficace à court et à long terme, plus respectueuse de la dignité et de l'avenir des personnes qui y vivent et également plus conforme aux droits, simplement aux droits. Il faudrait simplement, et c'est aussi à ça qu'on s'attache, et c'est aussi peut-être à ça que sert une réunion comme celle-ci, que l'on renonce à des représentations stigmatisantes, confortées par un mode de vie imposé. Je le répète, on est vraiment dans la fabrication de la question Rome. On a la preuve, on peut le mettre en évidence, que lorsque il y a un peu d'accompagnement, un peu de respect des personnes, respect de leur dignité, qu'il y a du temps surtout, beaucoup de personnes dites Rome sortent des bidonvilles, travaillent, disparaissent. C'est-à-dire que c'est plus une question, c'est simplement des immigrés récents qui essayent de vivre en France comme tout le monde, qui élèvent leurs enfants, bref, qui s'intègrent, comme ça a été le cas de toutes les vagues d'immigration, sans difficulté, sans exigence particulière, sans spécificité. Il y faut quoi ? Il y faut une volonté politique locale du préfet durable, donc une volonté politique, et malheureusement, on en est loin. Il y faut évidemment l'accompagnement par des associations qui les connaissent, qui travaillent avec eux, qui peuvent faire l'intermédiaire entre eux et les institutions. Et donc c'est pour ça qu'on a développé un programme de médiation sanitaire en direction des populations roms vivant en bidonville. Et puis surtout, le respect du désir de chaque personne. Ne pas les traiter comme un bloc homogène qui aurait tous les mêmes désirs et qui, de toute façon, ne serait pas intégrable, mais bien comme des personnes, chacune avec des capacités, des possibilités, des désirs, et voilà. Cela exige d'abord une mise à l'abri, un hébergement stable et sûr, et au pire, s'il n'y a pas d'autre solution, en stabilisant le bidonville, en tout cas c'est ce que nous prenons lorsque, compte tenu de la situation de l'hébergement et du logement, en particulier en région Île-de-France ou dans les grandes villes, au minimum, on peut stabiliser les bidonvilles et en faire un sas d'intégration. Et puis, bien sûr, du temps, je le répète. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. On peut approfondir sur toutes les questions que vous le souhaitez. Mais en tout cas, merci de répéter partout et toujours à tous qu'ils sont comme nous, qu'ils veulent vivre comme nous et parmi nous. À nous de leur faire, la place à laquelle ils ont droit. Merci.
Merci beaucoup, Laurent Egosi. Donc, on leur a noté stabiliser les bidonvilles.
Et s'il n'y a pas d'autre solution.
Très bien. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Jonathan Larcher, qui va nous parler de la manière dont ces questions sont définies, perçues dans les pays d'origine, et en l'occurrence, la Roumanie.
Merci beaucoup. Merci Milena pour l'invitation. Merci au Labex Tepsis pour organiser cette conférence. Et puis merci à vous d'être présents à cette heure. Je voudrais donc faire deux pas de côté. Le premier, Milena l'a parlé, j'ai travaillé en Roumanie. J'ai fait une ethnographie parmi un groupe rom en Roumanie. Donc je me situe du côté des pays de départ. Et le second pas est en fait que par rapport aux présentations précédentes, je voudrais juste déplacer les observations qui ont été faites sur la matérialisation de la frontière ethnique en me plaçant en fait dans le champ des représentations, du discours, des imageries. Donc on va voir des images. C'est un espace où les acteurs politiques et médiatiques produisent également une essentialisation et une racialisation des groupes roms. Je vais donc rapidement présenter les moyens et les attributs par lesquels les roms constitue l'envers négatif du « nous national » en Roumanie. Je développerai ces trois attributs, ou plutôt ces attributs, en m'attardant plus particulièrement sur trois moments. Le premier, c'est la longue sédimentation d'une imagerie qui s'est faite tout au long du XXe siècle. Le second moment, c'est la réactivation de cette imagerie dans le contexte des années 2000 et donc dans le contexte des migrations roms, des migrations des Roms roumains vers ce qu'ils appellent l'Occident. Et enfin, la redéfinition d'une identité nationale pour les Roumains à partir de la migration des travailleurs roumains dans les années 2010. J'emploie le terme tzigane et non pas romi, bien qu'il soit extrêmement connoté, car c'est bien celui qui est utilisé dans la plupart des discours et des représentations constitutives de la roumanité. Donc, le premier moment, c'est donc une période de longue sédimentation d'une imagerie qui s'effectue, voilà, on pourrait remonter facilement au début du XXe siècle avec la production industrielle de photographies et de cartes postales. Apparaissent déjà les éléments distinctifs de la tziganka, donc de la femme tzigane, qui sont le type, dans l'image en haut à droite, donc on parle du type de la tziganka, qui sont l'activité, les couleurs, le phénotype, la sursexualisation grotesque. Et bien sûr, on oppose à cela la roumaine, que vous avez donc à gauche, qui se distingue par son caractère, hein, l'affichage, le caractère authentique de ses vêtements, de son allure et sa sensualité. Émerge également un autre élément iconographique caractéristique des groupes roms, qui s'appelle donc la chatra, le campement tzigane, la forme par excellence du groupe rom dans ses représentations, mais qui ne représente ou qui ne correspond pas du tout même à la morphologie sociale de ces groupes constatés dès la fin de l'esclavage en Roumanie, c'est-à-dire en 1856. Cette chatra et ces figures donc de la tziganka vont être développées également sous une forme littéraire tout au long du 19e et du 20e siècle avec des œuvres importantes comme celle de Tziganiada. Et la figuration de la frontière ethnique est aussi présente dans les contes et dans la littérature orale. Dans ces représentations, le tzigane est toujours l'autre, l'envers, du personnage principal, le personnage principal auquel les auditeurs s'identifient. Alors, sous le régime communiste, 1956 jusqu'en 89, la chatra et les communautés tziganes demeure totalement absente du cinéma national pendant près de trois décennies. Ce qui est intéressant, c'est que donc les tziganes sont juste irreprésentables en tant que groupe. Ils sont repoussés en dehors de l'image. Ils seront en fait, en réalité, incarnés tout juste par trois acteurs, des Roumains bien sûr, dans quelques films où ils seront les serviteurs des personnages principaux. Alors, inutile de vous présenter qui est tzigane et qui est roumain. Justement, ça va de soi, c'est-à-dire que c'est dans le principe même de ces frontières matérialisées. Donc on reprend là, encore une fois, les mêmes attributs précédemment cités, comme l'envers grotesque du héros national, qui est quant à lui ou quant à elle digne, juste, bien sûr avec lequel le spectateur est censé s'identifier. Alors ces représentations sur les tziganes reposent également sur deux ressorts importants. D'abord, un déni total de l'expérience historique des Roms. En effet, bien sûr, l'esclavage, 500 ans d'histoire, est irreprésentable. On nous parle bien des esclaves dans les films, mais c'est les esclaves des seigneurs ottomans, mais pas les tziganes des nobles roumains. Ce qui contraste, bien sûr, avec le souci d'exactitude, par ailleurs déployé par les industries culturelles roumaines de la même époque, pour reconstituer l'histoire de la nation roumaine et ses grands héros, Burebista, Vlad Tepeș, les communistes résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Et cette frontière ethnique s'incarne aussi dans la préférence pour des récits qui représentent l'autre tzigane dans une époque antérieure. Comme si les tziganes étaient nécessairement anachroniques par rapport à la société roumaine contemporaine, du moment du film. Comme si la société roumaine ne pouvait pas concevoir les tziganes dans une trop grande proximité. Voilà ce qui sera en fait le fondement de cette imagerie. On va voir donc maintenant la réactivation de cette imagerie dans le contexte des années 2000 et des migrations des Roms en Roumanie. Donc dans les années 2000, la figuration de la frontière ethnique dans les représentations et les discours médiatiques et politiques vont justement remobiliser les mêmes attributs, tout en incorporant maintenant la nouveauté des migrations, de la migration des Roms roumains. Trois ressorts. Le premier, pour figurer une frontière ethnique, on reprend le même principe, on repousse les Tziganes en dehors de l'image. C'est-à-dire que depuis 1989, et y compris depuis 2000, et le renouveau du cinéma roumain qu'on voit qui gagne tous les prix, il y a seulement 5 ou 6 films où sont représentés des personnages tziganes. Le second ressort, c'est la construction d'un essentialisme des populations roms, et qu'on voit donc à la chute du communisme, puisque les Roms de l'Europe de l'Est, et parmi eux les Roms roumains, ont accédé en fait à une soudaine visibilité. En Roumanie, un ensemble de situations politiques et médiatiques apparaissent dès le début des années 90, et les communautés de familles roms sont alors unanimement désignées comme une minorité ethnique. Dans le cadre des projets d'entrée dans l'Union européenne, la Roumanie s'est confrontée en fait à l'intérêt soudain de l'UE pour les minorités ethniques. Donc le respect des droits des minorités devient, dès 1993, un des critères pour juger les États candidats à l'adhésion. Donc, sous le lieu commun du groupe défavorisé, appauvri, l'ethnie rome fait son entrée à la table des négociations. Par ailleurs, la sortie dans la presse de certains leaders charismatiques autoproclamés, dont les couronnements comme roi international des Tziganes de tout horizon ou roi des Roms de Roumanie et de la diaspora sur plus de 78 millions de sujets, mais reconnus en fait seulement par un groupe de familles de 2000 ou 3000 personnes, ont bien sûr défrayé la chronique au cours des années 2000. Et ces discours, plus la mobilisation d'une imagerie archaïque par ces leaders, ont participé en Roumanie à la consolidation d'une identité ethnique, ou plutôt d'une identité diasporique, imaginaire et essentialiste, et bien sûr en rupture avec la diversité anthropologique, sociologique et linguistique des familles roms. Alors ces discours médiatiques et politiques vont être réappropriés par les industries culturelles roumaines, et notamment les premiers feuilletons produits par la télévision dès 2007. Donc le troisième ressort dans ces années-là, les années 2000, pour figurer la frontière ethnique, consiste justement dans le réemploi des différents attributs historiquement fixés par les imageries que j'ai précédemment décrites. Dans les feuilletons télévisés, les attributs des Tziganes sont les suivants. On figure toujours la différence ethnique par les vêtements plutôt que par des phénotypes. Tous les acteurs sont roumains. Donc roumains avec tout un ensemble d'apparats qui figurent l'identité rome. Le second ressort, c'est une sursexualisation ou une sexualisation grotesque des femmes tziganes et des hommes tziganes. Et les hommes tziganes, c'est particulièrement intéressant parce que j'en suis intimement convaincu que c'est une forme de conjuration des peurs liées à une association courante dans les médias d'information entre migration, richesse et représentation genrée de l'homme tzigane. Un autre sort encore, c'est toujours ce rapport anachronique au temps présent. Les tziganes sont les seuls à se conduire selon des traditions archaïques. Quatrième élément, nous retrouvons la chatra, qui est dans un espace aterritorial, qui n'appartient en fait ni au monde urbain ni au monde rural, alors même que l'identité roumaine se construit sur cette opposition. Donc ces représentations reconduisent une relation de pouvoir qui est déjà observée dans l'histoire de l'art, par plusieurs historiens d'art, qui placent l'œil identitaire au centre et l'altérité à la périphérie. Donc comme vous l'avez compris, le centre de la roumanité, pour les Roumains, se trouve dans cette tension constante entre l'urbain et le rural, et la périphérie alors c'est le non-lieu, c'est la châtelain. Enfin, contrairement aux personnages de Roumains, bien intégrés dans une vie rurale ou urbaine, les Tziganes, les personnages tziganes, font des allers-retours entre la Roumanie et les pays d'Europe occidentale. Les Tziganes sont donc caractérisés par cette double périphérie, périphérie à l'identité nationale, considérée comme rurale ou urbaine, et périphérie à l'État-nation. Troisième et dernier moment, la redéfinition d'une identité nationale à partir de la migration des travailleurs roumains. Et là, je voudrais vraiment insister sur deux points qui me semblent particulièrement révélateurs de l'intérêt d'étudier les imageries pour penser les catégorisations à l'œuvre dans une société. Premier point, ces représentations télévisuelles sont antérieures d'un an ou deux au traitement médiatique des exclusions des Roms roumains en France et en Italie. Lors de ces exclusions, les médias roumains vont d'ailleurs se contenter simplement de citer les dépêches des médias étrangers sans souci de grande contextualisation ou de regard critique. Ensuite, en 2010, les imageries, toujours, donc ce qui fomente dans la culture populaire et dans toutes ses représentations, ces imageries prennent déjà acte d'un changement notoire. La migration vers l'Europe centrale, occidentale et les États-Unis est l'affaire de tous les Roumains. En effet, la migration rome représente une faible partie de ces mouvements migratoires, même s'ils sont très, très visibles dans les médias. Le problème, c'est donc dans les imageries, dans les émissions de divertissement et les séries télévisées, c'est comment faire de la migration un attribut de la roumanité, quand jusqu'à présent, c'est un attribut des Roms. Il y a donc trois conséquences à ça. La première, qu'on observe dans les émissions de divertissement et de feuilletons, la chatra, que vous avez là, donc, disparaît totalement. Deuxième, les tziganes qui migrent ne sont plus les antagonistes ou les envers du héros ou de l'héroïne, mais deviennent les personnages principaux. Avec même un cas intéressant dans un feuilleton télévisé où le chef rom devient le maire d'un petit village roumain. On peut constater avec un certain étonnement que c'est par la migration, voilà, vous reconnaissez la tour Eiffel, hein, de State de Romania, donc State, le chef des Roms de Roumanie, devant un petit village champêtre qui représente la Roumanie rurale. On peut constater en fait avec un certain étonnement que c'est par la migration et leur connexion avec un Occident idéalisé maintenant que les tziganes intègrent le monde rural. Deuxième conséquence, dans les médias d'information, la presse, les talk shows, à partir de 2011 et donc encore davantage à partir de 2014, avec la libéralisation de l'accès au marché du travail des citoyens roumains en date du 1er janvier 2014, les discussions autour de la migration des travailleurs roumains forment autant de lieux de négociation symbolique de l'identité collective. Troisième point, par voie de conséquence, si la migration est maintenant un élément constitutif de la roumanité, il n'est plus un attribut par lequel peut se matérialiser la frontière ethnique et la stigmatisation de l'identité rome. Et là, c'est encore une nouvelle histoire qui commence. Merci beaucoup. Merci.